L'enfance de l'art, les masterclass de la comédie, CDN de Reims.
Une rencontre avec Kunde Souter, avec Kalina Geleva,
Louisa Tingo
et Lucie Cronenberg.
Salut Koun.
Salut. Lucie, Kalina.
Exactement.
Louise.
Exactement. Louisa.
Louisa.
T'inquiète, c'est pas grave, on commence mal. Bonjour à tous. Donc, tu t'appelles Kunde Souter. Je te présente pour les auditeurs aussi. T'es comédien. Et donc, tu joues dans Marie Stuart en ce moment.
Oui, correct. Oui.
Voilà. Et donc, je crois que Kalina avait
une petite question. Donc, moi, je suis bulgare, d'origine bulgare, et j'ai grandi en Bulgarie, et donc j'ai commencé le théâtre en Bulgarie. Donc, j'ai commencé à jouer en bulgare. Et de temps en temps, pendant que je jouais en bulgare, j'avais certains mots qui me venaient en français, je me mettais à penser en français. Et donc après, quand j'ai changé, donc j'ai commencé à jouer en français, voilà, de temps en temps, j'ai aussi des mots qui me viennent en bulgare pendant que je pense. Et donc, c'est curieux, on se demandait, comme du coup tu es belge, tu parles flamand, en quelle langue tu penses quand tu joues ?
En fait, ça dépend des pièces. Si ce sont des pièces que j'ai déjà jouées, par exemple, j'ai joué Othello en néerlandais et en français, j'ai joué Iago. Et j'avais toujours le texte en néerlandais, il est dans ma tête, ça veut dire aussi avec l'accent tonique, j'étais complètement dans les nuages, c'était pas bien. Mais par exemple, maintenant, c'est vraiment ce Schiller, j'ai jamais joué. J'ai lu une fois en néerlandais et en allemand, mais je pense que je pense et que je joue en français maintenant.
Ouais. Okay.
Finalement.
Ça veut dire que quand tu appréhendes un texte, tu lis en français et en néerlandais. Tu lis dans les deux langues.
Je dois dire que ce texte de Schiller, c'est assez compliqué. Il y a des mots, vocabulaire que je connais pas. Alors j'ai lu la pièce avant en néerlandais, ouais.
Et par rapport à ça, on avait une petite question, parce qu'on a notre copine Nilam, qui est aussi dans la promo 27, qui a un accent du Sud, parce qu'elle vient du Sud de la France. Et on a bossé pendant 2 semaines avec Sébastien Evenot, en début d'année, et il lui a dit, en lecture, il faut que tu gommes cet accent, que tu fasses attention, etc. Et ça nous avait un peu interpellés, on s'était tous dit, ouais, mais donc ça veut dire que tu gommes ton identité. Enfin, on s'était un peu interrogés sur cette question-là. Et il lui a dit, non, c'est pas question de gommer ton identité, c'est de savoir le maîtriser pour le faire apparaître ou disparaître selon ton envie. Et du coup, nous, on se demandait comment tu gères ce changement-là de langue, de culture, de théâtre différent entre la Belgique, la France. Comment tu gères ce truc-là un peu de double identité, un peu, quoi?
En néerlandais, je parle très bien, je peux le dire, très bien en néerlandais, je fais des docus, tout ça, et c'était à l'école théâtre, c'était assez ouvert pour parler impeccable. Alors, c'est aussi une question pour les Flamands, une question politique, parce qu'on voulait que le néerlandais soit plus au même niveau que le français, alors c'était très très sévère. Et j'ai pris cette attitude aussi en France maintenant, mais je vois que je vais jamais arriver de parler sans accent. Maintenant, j'accepte. Ça m'a pris du temps pour accepter. Je suis d'accord avec Sébastien que un comédien, il faut achever une forme de neutralité. Ça veut dire d'avoir une langue qui est neutre. Aussi comme ton comportement, ton corps aussi, oui. Une page blanche qui était neutre. Ça donne du caractère, les accents. Maintenant, je pense, chez moi, c'est ce qu'on dit, mais ça fait pas longtemps que je parle le français. J'adore bosser, j'adore apprendre les langues. Mais s'il y a quelqu'un qui me dit, chaque semaine, on prend 2, 3, 4 heures pour gommer ton accent, je suis présent, ouais.
Ça part d'une anecdote et ça part d'une question que j'ai envie de te poser parce qu'elle met un peu, enfin, elle me tournicote un peu dans le crâne. En gros, j'ai fait un stage avec un comédien qui s'appelle Gauthier Johnson l'année dernière, qui est belge, et qui nous a dit le but d'un acteur, c'est d'être heureux et libre. Et en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comment toi, tu trouves ta liberté sur le plateau et comment t'arrives à la cultiver au fil du temps?
Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire le théâtre c'est ça ou ça, et où je vais pas me lancer dans cette théorie. Je pense que c'est Picasso qui a dit que la moitié de ta vie tu cherches comment être adulte, et la deuxième partie tu cherches comment être enfant. Je suis dans le deuxième stage maintenant. Mais j'ai souvent des difficultés pour faire le théâtre parce que c'est énorme, c'est comme un grand paquet beau on va le charger, on doit sortir du port. Mais dès que je suis sur scène, je m'éclate. Ouais, j'adore. C'est un peu comme faire du jogging. Le plus difficile, c'est mettre tes baskets. Vraiment, je dois courir ou pas. Mais dès que tu te lances, c'est agréable. Ouais.
Mais du coup, moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que quand tu trouves ta liberté sur le plateau, que tu t'épanouis dedans, etc., après, comment tu fais pour le vivre aussi dans ta vie de tous les jours ? Parce que du coup, on sait que, nous, ça nous pose question, parce qu'on entend un peu plein de témoignages, tout ça, que l'administration, c'est hyper relou, que trouver du boulot, c'est hyper hyper dur, tout ça. Et comment t'arrives à garder ta liberté, ton plaisir de théâtre dans la contrainte d'être acteur dans la société, quoi.
Ça c'est difficile. Je sais pas, en fait. Je sais pas si j'ai des choses à faire. Quand tu parles de l'administration, des trucs chiants, je le fais immédiatement. Voilà. Et sinon, ouais, j'ai pas de réponse en fait sur cette question. Comment garder ma liberté?
C'est plus, tu vois, par rapport à la difficulté d'être acteur, comment t'as pas jamais des trucs où tu te dis ça me donne envie d'arrêter, ou ça passe par-dessus le plaisir de toujours être en recherche de quelque chose, vraiment la galère de l'acteur, est-ce que ça prend le dessus sur ton plaisir de jouer? Est-ce que des fois tu te dis est-ce que j'ai pas envie d'arrêter? Est-ce que...
Évidemment, chaque jour je pense de m'arrêter, en fait.
Ouais. Et comment on vit avec
ça?
Oui,
mais c'est ça. Il faut, ouais.
Mais justement...
C'est un peu comme la mort, il faut penser à la mort chaque jour. Hein.
Mais qu'est-ce qui te... Parce que tu vois, presque tous les jours, je vais me dire, mais en fait, je crois que je vais arrêter et tout. Et comment tu te raccroches, tu vois? Qu'est-ce qui te tient jusqu'au bout à te dire, mais non, en fait, je m'y remets? C'est parce que c'est plus que nécessaire, c'est parce que tu ne dois pas faire autre chose, c'est parce que c'est une nécessité de raconter des histoires, de t'accrocher à des textes.
Le plus important, je pense, dans la vie en global, pour moi, c'est d'avoir des bonnes rencontres et de bonnes expériences. Et c'est ça qui me tient debout. C'est l'autre. Et l'autre, ça peut être un écrivain, ça peut être un film, ça peut être un sujet, ça peut être mes compagnons avec lesquels je suis sur scène. Oui, c'est ça qui me tient debout. C'est un art collectif. Hein. Tu peux être comédien, on parle des choses qui sont très individuelles, mais le théâtre, c'est un art collectif. Et c'est très important. Et le théâtre n'est rien sans public. Il y a trois choses. T'as besoin d'un poète, si c'est pas nécessaire, mais moi je suis de cette tradition-là, d'avoir un poète, d'avoir des joueurs et avoir un public. Et avec ça, tu démarres.
Nous, on est encore au tout début, on est encore en formation de théâtre et déjà on a ses doutes et on se dit, est-ce qu'on va pas arrêter tous les jours? Et pour nous, c'est sécurisant de savoir qu'on est encore en formation, mais je pense qu'on a tous un peu peur du moment où ça va s'arrêter et qu'on va devoir faire le grand saut dans le monde. Et comment ça se passe, ça? Comment on appréhende ce moment et finalement, est-ce que c'est si terrible que ça? Est-ce que... Voilà, comment ça s'est passé pour toi?
Moi, j'ai sorti de le Kiel Théâtre à 90. C'était à une autre époque, il y avait beaucoup de travail en Flandre. Et c'était vraiment le début de la vague flamande, alors c'était assez facile de trouver du boulot, en fait. Ouais. Maintenant, pour les jeunes, j'avoue, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Mais je pense aussi à tous les gens qui veulent être pianistes ou violonistes ou danseurs. Tu donnes des cours, en fait, après. Ouais. C'est triste, mais je pense aussi qu'il faut jouir de ce moment maintenant que tu as, parce que c'est beau. Et c'est ce temps maintenant, c'est jamais perdu, même si tu seras jamais Sarah Bernhardt, c'est pas grave.
Et qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil à nous qui allons nous lancer bientôt? On espère en tout cas.
C'est trouver la fête, trouver la joie. Ouais. Toujours dans ce que tu fais.
Donc d'essayer de se raccrocher à cette nécessité et se dire que on peut créer même avec les gens qu'on rencontre et avec qui on aime travailler, même si c'est que pour nous. Enfin, tu vois, je veux dire, si aujourd'hui c'est compliqué pour nous de trouver du travail, de se dire qu'on peut aussi créer de notre côté, quoi. De se créer notre propre travail. Tu vois ce que... Enfin, c'est clair ce que je dis.
Ouais.
Ouais.
Oui, je pense aussi, l'art, c'est toujours bien de démolir aussi. Hein. C'est... il faut que tout change pour que rien ne change. C'est dans ce film Il Gatto Pardo. Si on n'avait pas Rembrandt, Goya et après Picasso, Manet, on est en train de peindre des petits paysages, tu vois, très académiques. Et il faut toujours penser grand, je pense. Penser grand et penser... Quand t'es jeune, il faut changer le... Penser que tu changes le monde. Après, tu vas voir que c'est... Mais il faut le faire, ouais. Il faut le faire, il faut faire des ruptures, des... il faut déchirer des choses pour construire aussi. Ouais. Il faut être assez radical.
Donc, tu as fait ça, toi, dans ta jeunesse? Tu as déchiré des choses?
Oui, oui, oui. Mais non, non, mais maintenant, ce Schiller, c'est... J'ai dit à Chloé, OK, je vais le faire, mais je... enfin, je vais faire le théâtre. Je me battais toujours contre le théâtre classique parce que les Flamands... On n'a pas de tradition, on n'a pas de Molière, on n'a pas de Shakespeare, on n'a pas de Racine, on n'a rien, tu vois. On a le premier théâtre professionnel en Flandre, c'était 1864, je pense. Les premiers comédiens qui étaient payés. C'était très tard, on n'a pas de tradition. Ça veut dire aussi que les Flamands, ils ont toujours cherché une sorte de tradition. C'est un peu comme la peinture américaine, qui est aussi avec Mark Rothko et tout ça, qu'ils ont aussi cherché des choses pour ne pas être européens. Nous aussi, les Flamands, on a cherché des choses. C'était un peu théâtre avant-garde. Et maintenant, je suis dans avec mes deux pieds, dans la fiction totale, avec les costumes, les perruques et tout ça, que... On se moquait de ça quand j'étais petit. Et maintenant, c'est une bonne leçon parce que c'est pas facile. C'est une tradition. Pour moi, il n'y a pas un théâtre. C'est comme la musique. Il y a beaucoup de sortes de théâtres. Tous sont très légitimes.
Mais du coup, tu nous parles. Voilà, t'as grandi aux Pays-Bas, tout ça. Maintenant, donc, tu joues en France et tu vis en France. Comment? Est-ce que c'est deux théâtres complètement différents ou t'arrives quand même à trouver une continuité entre ces deux pays?
Chez nous, on travaille beaucoup avec des collectives. Ça veut dire que dans mon théâtre, l'école théâtre que je sortais, on a appris que le comédien souverain sur scène, c'est le plus important. Et le metteur en scène, c'est lui qui donne le rythme. Mais ça veut dire qu'un comédien, il crée quelque chose. Et ça, c'est une attitude que je vais garder parce que c'est ma croyance, en fait. Et je retrouve pas en France parce que la France, dans le théâtre, moi, je pense toute la France, c'est encore très pyramidal comme on pense.
Est-ce que t'es d'accord avec ce fait que... c'est important quand t'es comédien de garder tes convictions, tu vois, plus fort que tout. C'est-à-dire que, je sais pas, si demain on te propose de jouer dans telle pièce et tu travailles avec des gens où t'es pas d'accord avec leurs valeurs, tout ça, machin. Est-ce que, en tant qu'acteur, pour toi, ta liberté d'acteur, ce sera toujours de porter plus fort que tout tes convictions, tu vois ce que je veux dire?
Mais Michel Montaigne m'a appris qu'il faut toujours changer de perspective. Alors il faut avoir la gentillesse et la noblesse de pas penser que toi tu es le centre du monde. Ça je trouve très important. Ouais. Une autre chose, c'est aussi en Flandre, tu sais, on fait ensemble une pièce et c'est d'office que tu défends ce que tu as créé ensemble, collectif. En France, c'est autre chose. Tu étais plus un, comment dire, un bout d'un...
Ouais, t'es un élément d'un...
Un élément dans le spectacle, dans le tout. Voilà, c'est ça.
Et moi, j'avais une question un peu, parce qu'on en avait un peu parlé cette semaine et on trouve ça toujours... Enfin, je sais pas, il y a un peu une curiosité autour de ça. Comme on sait que tu vas jouer dans pas longtemps du tout, c'est quoi un peu tes rituels avant de monter sur scène? Est-ce que t'as des trucs que tu retrouves un peu à chaque spectacle? Est-ce que tu te crées un rituel particulier en fonction de chaque projet? C'est quoi un peu tes petites habitudes?
Je fais toujours mon texte. Je réfléchis toujours ce que j'ai fait la veille. Et comment je peux me perfectionner. C'est ça. Et l'autre chose, c'est de ne pas avoir des rituels. D'éviter les rituels. Ouais.
Tu changes souvent en fonction de comment tu te sens. Tu vas pas faire les mêmes choses. Ou...
Et je renifle aussi le public. Tu vois, je regarde le public et j'entends comment ça chuchote, comment ça murmure. Pour avoir déjà une sorte de connexion avec ce qui va se passer. Ouais.
Et quand tu joues, t'es très réceptif au public aussi.
Ah ouais, c'est le plus important. C'est le plus grand joueur dans le théâtre, c'est le public.
Et du coup, parce que dans Marie Stuart, on a des parties où on est vachement éclairé dans le public. Toi, ça t'aide beaucoup de voir vraiment le public ou justement, tu préfères avoir une relation plus...
Quand tu regardes le public, tu regardes le public, tu regardes dans les yeux. C'est pas le grand vide, un trou noir, non. Si tu veux avoir des relations avec des gens, tu joues pas comme ça, avec un peu fade, tu vois. Non, tu regardes vraiment dans les yeux des gens.
Et quand t'es en train de jouer et que tu sens que t'es pas au présent, par exemple, moi je ressens beaucoup ce truc de, il y a l'énergie des acteurs qui jouent, l'énergie du public et après peut-être l'osmose de si ça prend avec le public, tu vois. Et quand il y a pas ça et que tu peux être un peu dans ta tête à ressentir que l'énergie prend pas.
Ouais.
C'est quoi ton issue de, tu vois, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que je fais une action pour retourner au présent?
De nouveau un petit conseil. Il y a différentes choses. Tu peux te donner et donner, mais tu peux aussi absorber. Et absorber, c'est aussi une énergie. Et tu te calmes et tu rentres chez toi et tu dis, viens, public, viens. C'est une autre énergie, mais ça, il faut jouer quelques années pour apprendre ça, parce que c'est pas facile, il faut être confiant. Tu vois, il y avait un grand comédien allemand qui s'appelle Martin Wuttke, je l'ai vu jouer Arturo Uy de Brecht par Rainer Müller. Et il était toujours très nerveux et il disait, je me sens comme un, comment ça s'appelle, que quand tu marches sur une file, funambule, et le public veut me voir tomber. Et j'étais là, j'étais metteur en scène et avec un vieux comédien, il dit, il n'a pas raison, le public veut que tu marches de point A à point B sans tomber. Et ça, j'ai jamais oublié ça. C'est pour ça que je dis, le théâtre, c'est une fête, les gens veulent te voir exceller.
Ouais, donc c'est de trouver cette confiance avec le public, enfin, de te raccrocher à ça.
On est ensemble et c'est une soirée festive. On entre dans la fiction, on entre dans quelque chose, dans la magie, et c'est bon.
Et donc, quand tu joues pour le public ou parce que de temps en temps, quand on travaille des scènes ou quelque chose, on nous demande mais pour qui vous jouez? Et est-ce que tu joues pour toi? Est-ce qu'on joue pour nous? Est-ce qu'on joue pour son partenaire? Est-ce qu'on joue pour le public? Toi, tu dirais quoi?
Public, évidemment. Ah oui, public, évidemment. Tu sais, quand on répète, il y avait des répétitions, il y avait une comédienne qui disait, oh, je veux encore faire mon monologue. Et le metteur en scène disait, mais comment, tu parles à public? Il n'y a pas de public, pourquoi faire ton monologue? Moi, je trouve ça très évident, c'est très clair. Moi, j'ai fait un monologue sur Michel Montaigne, et j'ai répété toujours face à face avec quelqu'un. J'ai lu mon texte, j'ai récité mon texte toujours avec quelqu'un. J'ai jamais joué, répété pour une salle vide. Jamais. Non.
Donc même dans le travail, c'est important de travailler avec les autres, ou tu travailles beaucoup seul aussi à côté?
Les deux évidemment, ouais. Oui, c'est un métier. Alors, c'est un métier. Si tu veux faire un concert de piano de Rachmaninov, tu débrouilles à la maison et avec l'orchestre, tu joues avec l'orchestre. Mais tu dois être au taquet quand tu commences avec les autres.
Ouais. T'as des méthodes de travail un peu quand tu sais que tu vas t'attaquer à un truc qui est assez gros? Est-ce que t'as des méthodes, ok, on commence par ça, puis tu vois, est-ce que tu... T'as des sortes de rituels, un peu de travail pour pouvoir rendre le truc un peu plus vivable? Parce que des fois, moi, je sais que quand je travaille, je sais pas par quoi commencer, et c'est un peu le bordel, et donc j'ai un peu de mal au commencement d'un travail.
Ouais. On change tout le temps, hein. Tous les 10 ans. Maintenant, je vais reprendre un monologue que j'ai fait il y a 10 ans. Je suis pas le même mec que j'étais là. Impossible. Et alors, je vais tout refaire. Alors, on change tout le temps. Alors, ça veut dire aussi que j'ai pas de mes méthodes changent aussi avec chaque partition, parce que un texte théâtre pour moi c'est aussi une sorte de partition. Tu peux faire le free jazz, tu peux faire Wagner, tu peux faire Eric Satie, tu vois, c'est une autre manière de entrer dans cette partition. Alors, je change de méthode tout le temps et je galère, ouais.
C'est rassurant, en tout cas.
Et est-ce que tu t'es essayé un peu à d'autres arts que le théâtre, genre à la musique, à la danse, à la marionnette? T'as fait un peu d'autres trucs ou pas du tout?
Moi-même.
Ouais.
J'ai chanté un peu, chanteur lyrique.
Ah, trop
j'ai
bien.
J'ai commencé à l'école théâtre comme chanteur et mon professeur disait, oh, il faut aller au conservatoire, reste pas à l'école théâtre, mais j'ai pas fait parce que j'aimais trop la vie, j'aimais bien picoler et fumer, alors j'ai dit non, je préfère le théâtre et pas la danse, non, j'aime la littérature évidemment, ouais, et les arts. Ouais, plastique, ouais.
Est-ce qu'il y a un moment où vraiment tu t'es dit, voilà, je sais que je pense que je veux faire ça, ou au contraire, c'était quelque chose de beaucoup plus fluide et ça s'est construit dans le temps?
Maintenant, je dois me mettre sur le canapé, je m'allonge. Je suis grandi chez mes grands-parents. On avait un café-restaurant, j'étais seul, là, grande maison, j'étais toujours seul. Et il y avait une sorte de rituel, c'était... il y avait une voisine, et chaque samedi, à 13h45, il y avait un film américain, en noir et blanc, évidemment, à l'époque. C'était toujours Fred Astaire, tous les grands comédies musicales hollywoodiennes. Et les persiennes, on dit les persiennes, elle tirait les persiennes. Les persiennes, oui. C'était une sorte de lumière, c'est un peu verdâtre, on va dire. Et c'était un thé citron. Et on regardait, et je sortais, je vais dire, de la salle qui était sa petite chambre. Et je rejouais tout ce que j'ai vu. Ouais. J'ai toujours, je pense que, imiter, il y a aussi dans la neurologie le neurone miroir, tu vois, on imite ce qu'on voit pour apprendre des choses. Et comme j'étais seul, je pense que j'ai beaucoup imité, refait. Il y a un essai d'un écrivain hollandais qui dit que c'est le tableau blanc, tu vois, le tableau à l'école, on normalement c'est noir avec le craie, c'est le cinéma, c'est le tableau de l'école blanc. Tu apprends tout là. Comment donner un baiser, comment caresser, comment regarder, comment être méchant, comment... Et ça m'a beaucoup aidé, je pense, le cinéma, ouais. Et le premier théâtre que j'ai vu, j'avais 8 ans, c'était Animal Farm, George Orwell.
La ferme des animaux.
Ouais, j'avais 8 ans. C'était les années 70, 70, et les comédiens, ils étaient les années 60, après 68, tu vois, les comédiens jouaient en jean, théâtre politique, et ça m'a bien marqué ce que j'ai vu. J'ai rien compris, mais je vois les gens danser avec des balais, tu vois, qui étaient des chevaux. Et oui, c'était magique pour moi. Ouais, c'est toujours le côté magique qui m'a séduisé. Ouais.
À partir de quand t'as su, t'as compris quel type de théâtre te touchait plus, dans lequel t'avais le plus envie de t'exprimer, de faire passer des choses?
J'ai beaucoup fait, hein. J'ai beaucoup fait de toutes sortes de théâtres. Mais quand j'étais à l'école de théâtre, moi, je voulais être Richard Burton, tu vois. Voilà. Classique, Shakespeare. Ouais, j'aimais le côté romantique dans le théâtre aussi, tu vois. Ouais. Les coulisses, le noir. Savoir déclamer avec une élégance énorme. Ouais, j'ai commencé comme ça. Après, j'étais plus punk, mais disons que j'aime encore Richard Burton beaucoup, ouais.
Moi, j'ai cette problématique-là où j'essaie de travailler un peu dessus. On a eu un stage la première semaine avec Sébastien Evenot, et là, on est avec Julie Pilot. Et donc, elle nous a dit il faut jouer pour vous, il faut faire les choses pour vous et pas pour le metteur en scène, quand vous êtes en travail en tout cas.
Oui.
Et moi, c'est un truc où j'ai du mal à m'en détacher parce que j'ai toujours envie de répondre aux attentes.
D'avoir un résultat un peu.
J'ai envie d'avoir un résultat et j'ai envie de répondre à ses attentes et à ses envies et de lui montrer que je peux faire ça et tout. Et je sais que des fois, ça me met pas au bon endroit. Est-ce que t'as eu ce problème-là et comment t'as réussi à t'en détacher?
Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai une grosse tête, je pense, et je pense toujours que je sais le faire mieux. Et évidemment, c'est pas le cas, mais il faut toujours jouer pour créer. C'est toi le créateur sur scène, sur la planche. C'est toi, c'est ta cassette, tu vois, avec tout ce qui est important pour toi, c'est ta vie. C'est ta vie, c'est ta création. Et c'est toi qui es souveraine de dire, ça c'est moi et je vais le faire comme ça. Glenn Gould. Tu connais Glenn Gould? C'est un pianiste canadien. Il a joué les variations Goldberg de Bach deux fois en 53 et en 81. La dernière fois qu'il a joué, mais c'est avec une élégance, avec une respiration là-dedans, une clarté, c'est énorme. C'est pas Bach, c'est Glenn Gould qui l'a fait. Quand tu interprètes, il faut penser que tu crées, et c'est à toi, c'est ton être.
Et toi, il n'y a jamais des textes où, je sais pas, ça met du temps à brûler, genre, tu vois, à ce qu'il y ait une nécessité de le dire et tout. Ça t'arrive jamais d'avoir ce...
Quand tu apprends ton texte, je veux dire, j'avoue maintenant, avec le français de Schiller, ça, c'était très dur pour moi. Mais normalement, en irlandais, quand j'en prends un texte, je dis, pourquoi il commence avec cette phrase? Pourquoi il y a ce mot-là? Pourquoi il saute à une autre pensée? Et quand tu penses comment s'est construit ce texte, tu n'as plus besoin de l'apprendre. Et tu l'as adapté psychologiquement aussi. Comme toi, psychologiquement, tu veux le faire. Et tu as fait ton histoire avec des mots. Ça veut dire que tu donnes du chair à des mots.
Ouais. Mais donc, quand... Voilà, nous on est encore en formation et nos intervenants comme Sébastien ou Julie nous disent de trouver ce qui nous touche dans les textes. Sauf que parfois, je trouve que c'est pas évident quand c'est quelque chose qui est très loin de ce qu'on vit ou de nous. Par exemple, je sais que j'ai du mal à trouver la légitimité de jouer un personnage qui a des traumatismes ou des choses comme ça. Et donc, comment on fait pour se sentir légitime pour jouer ce rôle?
Oui, mais aujourd'hui, c'est plus difficile qu'à l'époque. Ouais, les temps ont changé. Pour moi, tout est possible si c'est digne, avec dignité. Ouais. Je pense que tout est possible. Et comment faire? Oui, ça, c'est le boulot du comédien. Il faut remplir ton sac à dos chaque minute de ta vie. Il faut voler sans cesse. quand tu attends le bus et tu vois une vieille dame qui prend quelque chose, un papier, tu regardes tout, tu absorbes tout. Oui, c'est, et maintenant je reviens avec les neurones miroirs, il faut imiter, c'est pas mal d'imiter. Imiter, c'est aussi, c'est une forme de magie aussi. Hein. Nous, à l'école théâtre, la première année, on n'avait pas de texte. On devait jouer les éléments d'abord. C'était, on jouait l'électricité, la bouasse, la lune, tu vois. Et après, on jouait les plantes. Mais tout en collant, torse nu, collant, noir, vraiment comme un danseur. Et c'est pas imiter parce que tu dois vraiment sentir quand tu joues un cactus que tu es, quand tu joues l'électricité, que tu es vraiment extrêmement chargé, tu vois, ou que tu cherches les protons, tu vois. Et c'est une forme de mimèse, oui, mimèse, plutôt qu'imiter. Et après, on jouait les animaux et après les professions. Ouais.
Et quand tu imites un cactus, enfin quand tu vis le cactus, est-ce que du coup il y a un endroit où tu te dis et si les mots, est-ce que tu pourrais vivre sans les mots?
C'était très difficile.
Ouais.
Ouais, c'était très difficile. Moi, évidemment, on avait aussi des classes de littérature. On avait l'allemand, français, philosophie. On avait, c'était une école un peu comme l'école, presque un double de l'école de Moscou. C'est-à-dire que le comédien est un instrument. Alors, on avait beaucoup de danse. L'école, ça puait le sueur. beaucoup de langues, oui, de tout, l'histoire. C'était des très longues journées, mais la langue, ça me manquait, évidemment, ouais, ouais, tout le monde, ouais.
Toi, qu'est-ce qui t'a, enfin, ça a été quoi un peu ton déclic pour te dire, le théâtre, en fait, je veux vraiment en faire mon métier et j'ai envie de me former pour devenir comédien professionnel.
Ouais, le hasard un peu, non? Il y a rien de mal avec le hasard, je pense. Hein. J'ai fait un peu d'histoire avant et j'étais dans... je rigole maintenant pour moi-même. J'ai joué dans un Jesus Christ Superstar, dans un truc musical, comédie musicale, hein, ouais. Et on a tourné pendant, on a joué 60 fois aux Pays-Bas, partout. Et j'aimais bien faire ça. Et j'ai passé la porte de l'école théâtre et j'ai dit, oh, je vais m'inscrire. Et c'était, voilà, et c'est comme ça que c'est passé. Ouais.
Le heureux hasard.
Moi, ça fait, je sors d'une formation de 2 ans déjà à Bordeaux, et quand je me suis vraiment mis dedans et tout, en fait, il y a eu un peu comme une dimension. Forcément, ça relève aussi du développement personnel, parce que tu te retrouves face à toi-même, et donc ça te confronte aussi à des choses que tu dois travailler sur toi, tout ça et tout. Est-ce que avec ton corps tu développes, enfin je sais pas comment dire ma question,
oui,
mais tu vois, est-ce qu'avec ton corps du coup il y a un truc où t'es hyper à l'écoute de ton corps, t'as une hyper conscience de toi, de l'écoute que tu portes à toi-même, enfin
ouais,
je sais pas trop comment le formuler là, vous comprenez ce que je
Tu parles du comportement sur scène?
Non.
Ou est-ce que je vais au Basic
Fit? Non. En fait, ça revient un peu à cette question de la liberté que je te posais tout à l'heure.
Ouais.
Parce que, donc, je sais pas, est-ce que du coup, ça t'amène à une liberté aussi dans ta vie, tu vois? Est-ce que ça fait exister une liberté dans ta vie? Non, je sais pas.
Ouais, je pense, je m'accorde réellement, c'est pas, je suis assez prudent pour danser et tout ça, tu vois? Je suis pas, je m'éclate, mais mentalement, oui, j'adore tout ce qui est des pensées extrêmes, des pensées rigolos, des pensées, tu vois? Ouais, c'est plutôt ça qui ça m'a libéré de penser très libre. Ouais, de penser très libre.
Merci beaucoup. Je crois que c'est l'heure parce que il y a une représentation à jouer. merci.
Mais merde.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Okay.
Et merci à vous, c'était très chouette.
Merci ouais. beaucoup.
Merci.
L'enfance de l'art. Une masterclass avec les élèves de la classe de la comédie, CDN de Reims. Ecomédie.fr